toutes et à tous, bienvenue sur Micro Rebelle, la radio des alternatives et des luttes sociales sur le bassin minier et au-delà. Merci à Radio PFM de nous accueillir chaque semaine pour la diffusion de Micro Rebelle Hebdo. Je rappelle que vous pouvez écouter Micro Rebelle Hebdo sur PFM 99.9 le mercredi à 22h, le jeudi à 17h et le dimanche à 9h. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous entendre et découvrir nos programmes sur Internet sur microrebelle.fr où vous pouvez également réécouter et télécharger nos émissions. Comme toujours, Micro Rebelle vous propose de la musique libre. La semaine dernière, c'était du punk rock avec le groupe The Spinwires. Cette semaine, c'est de la musique classique. Vous venez en effet d'entendre un extrait des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, telles qu'elles ont été placées dans le domaine public au travers du projet Open Goldberg Variations. Jean-Sébastien Bach est décédé en 1750. Comme il y a plus de 70 ans, ses œuvres sont donc disponibles dans le domaine public. Ses œuvres, oui, mais pas leur interprétation, qui reste soumise aux droits d'auteur et est en général protégée durant 50 ans après l'enregistrement. Le projet Open Goldberg Variations, en 2011-2012, s'est attaché à produire les variations Goldberg en plaçant leur enregistrement directement sous la licence Creative Commons Zero, qui est une licence libre. L'ensemble a été interprété par la pianiste Kimiko Ishizaka. Ce sont donc quelques-unes de ces variations libres que vous pourrez écouter tout au long de ce Micro Rebelle Hebdo. Sans attendre, je vous propose de passer maintenant à notre agenda.
Les lundis du planning, ça continue le 4 juillet avec pour thème cette fois-ci le consentement sous toutes ses formes. L'atelier prendra place dans les locaux du planning à Lens de 18h à 21h et pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, je vous la donne. C'est à la Maison des Associations, 45 rue François Gauthier à Lens. Alors pour plus de convivialité, le planning met en place une auberge espagnole. Donc pour les gourmands, tâchez de ramener quelque chose à grignoter.
Le samedi 2 juillet, deux belles initiatives sont organisées à Liévin, deux belles initiatives festives, ouvertes à tous et à toutes. Alors il y a d'abord le barbecue organisé par notre équipe de micro-rebelles, je vais vous en parler un peu plus tard, et puis le repas partagé organisé par le LAG, le lieu autogéré, à Liévin. Je vais commencer par évoquer ce dernier événement, le repas partagé organisé par le LAG. Le LAG invite toutes ses amies. C'est un repas qui est ouvert à toutes et à tous. L'objectif, c'est de se retrouver pour passer une bonne soirée ensemble autour d'un bon repas, donc au LAG, au 23 avenue Jean Jaurès à Liévin, et d'échanger autour des projets du LAG, autour des activités prévues, autour de ce qui a été réalisé cette année. Donc c'est à 19h au LAG, au 23 avenue Jean Jaurès. Si possible, il est demandé à tous les participantes et participants de passer dans l'après-midi avec ces ingrédients pour préparer le repas ensemble. Donc je rappelle, c'est le 2 juillet, 19h le repas, et à partir de 14h dans l'après-midi, on vient avec ces ingrédients pour la préparation.
Une autre info concernant le planning, qui met en place une kermesse en partenariat avec Culture et Liberté, le 12 juillet à Grande Résidence à Lens. Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations, voici le numéro du planning, 03 21 28 43 25. Ce numéro est bien sûr disponible sur internet lorsqu'on recherche Planning Familial 62.
Bien, je vous le disais précédemment, notre équipe de Micro Rebelles est particulièrement heureuse de vous proposer un bon moment à passer ensemble. Donc ce sera le samedi 2 juillet à partir de 13h. L'idée c'est passer un moment autour d'un barbecue. Hein, l'idée, c'est que chacun et chacune apporte à manger et à boire. Et puis, on se retrouve et puis on mange ensemble, on boit ensemble, avec y compris d'autres activités. Alors, notre équipe souhaite s'adresser à toutes celles et ceux qui ont participé à nos émissions, donc les membres d'associations, les membres de collectifs, les amis de Micro-Rebelles, mais aussi à l'ensemble de nos auditrices et nos auditeurs, et enfin les habitants du territoire, nos voisins et voisines, à nous, Micro-Rebelles. Qu'est-ce qu'on compte faire ce samedi 2 juillet ? Premièrement, on voudrait vous présenter notre équipe. Hein, qui on est, d'où on vient, pourquoi on a choisi de s'investir au sein de Micro-Rebelles. Vous présenter nos projets, donc l'année scolaire se termine, hein, Micro-Rebelles va bientôt interrompre ses émissions pour les vacances, mais on a des projets pour la rentrée et on voudrait au moins en discuter avec vous. On voudrait également vous proposer de visiter nos locaux, et puis surtout écouter vos idées, vos propositions, vos remarques, hein, vos critiques même, hein, et puis vos encouragements. Et surtout, passer un bon moment ensemble avec chacune et chacun d'entre vous. Donc c'est le samedi 2 juillet à 13h et Micro-Rebelles se trouve au 199 rue Émile Zola à Liévin. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous envoyer un courriel contact@microrebelles.fr et puis consulter d'autres informations sur notre site http://microrebelles.fr. À très bientôt au samedi 2 juillet.
Vous êtes toujours sur Micro-Rebelles Hebdo. Voici maintenant notre premier reportage. Il a été réalisé par Michel, comme chaque semaine, et je lui laisse le soin de vous le présenter.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouveau reportage, aujourd'hui consacré à une interview de Vivien qui a ouvert une boutique de jeux de société à Béthune. Il était venu présenter quelques jeux de plateau au Nautilus le temps d'une après-midi et c'est autour du jeu Sea of Clouds que nous avons réalisé ce petit reportage. Je vous souhaite une bonne écoute et à la semaine prochaine. Bonjour Vivien, donc tu es venu aujourd'hui présenter quelques jeux de société ici au Nautilus à Béthune. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le but de cette petite après-midi ludique ?
En fait, en gros, c'est pour faire découvrir la plupart des jeux de société qui sortent en dehors du Monopoly, le risque traditionnel, pour présenter également différents types de produits qui peuvent exister sur le marché, tout en sachant que ça ne se limite pas aux jeux classiques qu'on connaît tous.
Alors, on m'a dit que tu avais ouvert une boutique aussi sur Béthune. Est-ce que tu peux revenir un peu sur pourquoi en 2016 ouvrir une boutique de jeux de société ?
Alors au fait, en gros, la boutique est ouverte depuis le 6 mai, donc c'est vraiment très récent. Et en fait, en gros, c'est par rapport à, vu que je suis passionné de jeux de société, et on va dire c'est un peu un choix de m'implanter sur Béthune, déjà par rapport à de là où j'habite. Ensuite, la possibilité d'attirer pas mal de personnes, vu que il y a différents types de personnes qui sont sur Béthune. Ça peut être des étudiants, ça peut être des personnes qui connaissent le jeu de société moderne.
Alors, on va jouer à un jeu. Est-ce que tu peux le présenter ?
Alors voilà, je présentais là actuellement, c'est Sea of Cloud. C'est un jeu qui a été distribué par Yellow, une sortie récente en effet, vu qu'elle est sortie en magasin depuis le 29 avril. Donc en gros, c'est un jeu de piraterie où le but est de récolter le maximum de rhum, de trésors et de reliques. Tout bien sûr en abordant avec des pirates.
Alors là, sur la partie de Sea of Clouds, on vient de faire 2-3 tours. Toi, comment tu sens ta partie ?
Pour l'instant, question abordage, ça va. Mais alors, question Rome, je suis un peu à sec.
Et toi, Jean-Christophe ?
Je pense que question abordage, je suis mieux barré que toi. Question Rome, pareil, c'est pas l'euphorie, quoi.
Alors, Vivien, est-ce que tu peux me dire d'où t'es venue cette passion pour les jeux de société ?
On va dire, en gros, ça a commencé avec le collège, où tout le monde a connu les livres dont vous êtes le héros. Forcément, on a commencé au CDI à lire les livres dont vous êtes le héros. Après, on est passé à Magic l'Assemblée, 3e édition, donc ça remonte à pas d'hier. Forcément, et après, bon, on a continué avec les jeux de rôle au lycée, les jeux de plateau un peu plus avancés, genre Talisman, 3e édition et compagnie. Et voilà.
Donc, une culture très rôliste, bon, on peut dire ça quand même. En ce moment, on va dire, quel jeu de rôle te plaît en ce moment ?
Un grand incontournable, l'appel de Cthulhu. Forcément, donc là la 7ème édition est sortie, j'attends avec impatience l'édition collector qui je pense à recevoir en mois de juillet.
Et quel jeu de rôle tu mets en avant, bon à part l'appel de Toulouse dans ta boutique, ou que tu souhaiterais mettre en avant dans ta boutique ?
On va dire les jeux de rôle c'est assez large, donc on va dire il y en a pour tous les goûts, on va dire on peut passer par l'Heroic Fantasy, le Cyberpunk avec Shadowrun, après il y a l'appel de Toulouse forcément, et puis bon il y en a plein d'autres comme les ondes d'Estérène. En gros là je commence simplement avec des initiations pour pouvoir attirer un maximum de joueurs, pour pouvoir essayer qu'ils connaissent le jeu de rôle et qui justement s'initient au jeu de rôle. Et après, pourquoi pas se développer en rapprochant auprès des éditeurs pour pouvoir avoir plus de choix.
Alors, une petite question par rapport à ta boutique. Donc, tu nous as dit que ta boutique, c'était depuis début mai, hein, qu'elle avait ouvert. Comment tu comptes la faire vivre, la faire prospérer
Alors déjà, en gros, je mets à disposition des tables où les joueurs peuvent venir s'installer et essayer certains types de jeux que la boutique met à disposition, donc sans obligation d'achat. Après, par la suite, je compte organiser des tournois une fois que j'aurai assez de joueurs, forcément, donc pas forcément du Magic comme tout le monde connaît, mais pourquoi pas organiser comme la plupart qu'on peut voir sur internet des tournois de jeux de société comme les Aventuriers du Rail qui existent, mais bon, moi ça sera autre chose. Mais bon, c'est à voir et ça sera dans le développement.
Sur l'idée de mettre à disposition des jeux, est-ce que tu peux expliquer un peu, est-ce que c'est le 6 mois en tant que client, je voudrais tester un jeu, est-ce que je peux tester n'importe quel jeu ou ce sera une sélection que tu fais et que tu changes régulièrement?
Alors en gros, il y a tout d'abord une sélection de la boutique qui est faite par rapport aux fournisseurs. Forcément, pour avoir des jeux de démo, j'ai dû voir avec les fournisseurs. Donc par rapport à cela, ce sera vraiment les jeux qui sont sur une liste à côté de la caisse. Sinon, après, pour une demande particulière, j'ai des jeux personnels que je peux ramener à la boutique, qui sont bien sûr également disponibles en magasin. Donc à partir de là, il faudra simplement me laisser un petit message sur Facebook pour savoir si oui ou non je peux le mettre à disposition.
Alors, petit point sur la partie là, de Sea of Clouds, on vient de faire les premiers combats. Alors, ton avis ?
Bah, je vous ai massacré.
Non. Est-ce que tu peux expliquer ce que t'as remporté là dans ce premier combat ?
Au fait, alors ce que j'ai gagné, alors j'ai gagné du rhum que j'ai piqué aux adversaires, j'ai gagné de l'argent, donc des doublons. Donc bref, au fait, j'étais un bon pirate, quoi. Donc, à vous de jouer maintenant.
Alors Jean-Christophe, là sur le premier combat, comment ça s'est passé ?
Bah écoute, c'est simple, on a affaire à Vivien, le mec qui a déjà joué plusieurs fois, il oublie de nous dire des règles. Donc bon, j'ai rien à ajouter.
Donc on évoquait les tournois de jeux de société. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour ceux qui sont néophytes dans l'univers des jeux de société, un tournoi de jeux de société, c'est ça se présente comment ?
Alors en gros, suite à une inscription, on peut prétendre à une place pour pouvoir participer à un tournoi. Et le but selon le jeu, en gros, on applique exactement les mêmes types de règles qu'il y a dans le jeu de base, mais c'est d'avoir un meilleur scoring que les autres. Forcément, le gagnant peut remporter le premier prix convenu selon le type de tournoi.
Alors là, comme ça, on est en train de jouer. À la volée, qu'est-ce que t'aimerais faire en tournoi comme jeu de société dans ta boutique?
Bah, pour l'instant, j'ai pas encore tout essayé. Je connais pas non plus tous les joueurs qu'il y a sur le secteur Béthune. Donc après, forcément, selon le type de joueur, on peut faire évoluer le type de tournoi sur certains types de jeux de plateau, quoi. Donc, exemple, Seven Wonders, qui est pas mal en question tournoi, on pourrait évoluer là-dessus. Et après, bon, il y a peut-être d'autres jeux qui prétendent au même type de prétention par rapport au tournoi.
Alors là, depuis quelques années, le jeu de société a un peu le vent en poupe, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de conventions qui ont été créées autour de ça. Il y a une certaine visibilité qui commence à exploser autour de ce domaine ludique. Avec ta jeune boutique, est-ce que tu as déjà pensé à te positionner sur certaines conventions ou sur certains événements?
Alors par la suite, c'est en évolution. Alors moi, l'optique qui était prévue que je veux faire, parce que ça faisait partie de mon prévisionnel quand j'ai créé mon projet au sein de la BGE, c'est pourquoi pas d'ici 5 ans, proposer comme Paris Ludique ou Ludinor, mais sur Béthune. Faire vraiment un mouvement ludique sur Béthune qui pourrait ramener pas mal de monde et faire découvrir vraiment l'univers du jeu de société dans les alentours de Béthune, qui n'est pas beaucoup connu en tant que tel. Dans ce genre de secteur.
Donc au lieu d'aller à une convention, toi tu voudrais créer carrément ton event sur Béthune. C'est ambitieux et par rapport aux autres, parce que dans la région il y en a quand même quelques-uns qui existent, hein, tu évoquais Ludinor, il y a aussi à vous de jouer, et puis il y a sur Lille toujours en novembre, je crois qu'il y a une convention autour du jeu de rôle. Là comme ça à chaud, qu'est-ce que tu aimerais apporter d'original pour te démarquer et que l'event sur Béthune soit quelque chose qui va marquer les esprits?
On va dire déjà, la grande place de Béthune peut permettre d'amener pas mal de monde. Fait que par rapport à sa superficie, et puis bon, c'est vrai que par rapport, historiquement parlant, on a un beau beffroi. Donc faire un festival de jeux autour du beffroi, ça serait pas mal.
Alors la partie de Sea of Clouds vient de se terminer. Un petit avis sur cette partie, et puis pour donner envie aux gens de découvrir ce jeu.
En fait, en début d'interview, je me suis trop enflammé, puis apparemment, j'ai trouvé plus fort que moi. Donc tant pis.
Pourquoi tu conseillerais ce jeu aux gens?
En fait, en gros, par rapport à ce qu'on peut avoir comme combinaison de cartes, on peut ramener des petits fous rires parce que forcément, on pense mener tout le reste. Et par rapport à ce qu'on a comme adversaire, on peut vachement se remettre en question au fur et à mesure de la partie. La preuve, c'est que j'étais trop confiant la première partie de la carte et je m'en suis mordu les doigts. Donc voilà, j'ai plus qu'à sticker mon pont, quoi.
Et toi, Jean-Christophe, un petit commentaire sur cette partie qui vient de se terminer?
Franchement, très bon jeu. On s'est super bien marré, quoi. Donc pareil, quoi. Je pensais que j'aurais gagné, moi, mais non. Bah au final, non. Donc je pense que je vais sûrement intégrer ma petite collection privée. Et voilà. Merci.
Voilà, l'interview de Vivien, donc, qui a ouvert sa boutique de jeux à Béthune, est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié ce petit compte-rendu de partie tout en faisant l'interview. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain reportage. Au revoir.
Nous sommes toujours sur Micro Rebelle Hebdo. Le reportage qui va suivre aborde une thématique que nous aimons bien à Micro Rebelle, l'autogestion.
Bonjour à tous et merci d'écouter Micro Rebelle. Alors pour cette émission, nous nous sommes déplacés dans les Sept Vallées à Russoville au sein de l'association A Petit Pas qui accueillait le réseau Repas. Alors le réseau repas, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau informel hein, d'entreprises, d'associations. Repas, ça veut dire réseau d'échanges et de pratiques alternatives et solidaires. Donc ce réseau regroupe une trentaine d'entreprises, hein, d'associations dans toute la France. Et celles-ci mettent en œuvre des pratiques économiques qui, en quelque sorte, tiennent à distance le profit, la course à la consommation, le tout à l'économie. Hein, c'est un réseau qui inscrit ses pratiques dans le concret de pratiques libres, solidaires, et qui se reconnaissent dans une culture commune, tout en précisant que les organisations de ce réseau ont des métiers hein, extrêmement différents. On peut typiquement estimer hein, que beaucoup d'organisations du réseau repas hein, s'efforcent de redonner vie hein, au joli nom d'autogestion. Donc dans notre région Nord-Pas-de-Calais, hein, lors de ce week-end du réseau repas, il y avait, concernant le Nord-Pas-de-Calais, donc l'association à petits pas qui accueillait l'ensemble du week-end. Il y avait également la coopérative, hein, la SIC CLIS 21. Et il y avait l'association lilloise Les Filles à Retordre. Au-delà de ce qu'est le réseau repas, autrement dit un rassemblement d'une trentaine d'organisations, le réseau repas c'est également le compagnonnage. Alors le compagnonnage c'est ni plus ni moins un tour de France hein, dans les entreprises du réseau repas. Un tour de France d'une quinzaine de jeunes qui sont répartis en petits groupes et qui souhaitent non pas apprendre un métier, mais visiter des entreprises dans lesquelles il y a un certain nombre de valeurs. Et donc, en faisant ce tour de France, c'est ni plus ni moins transmettre des valeurs qui ont cours au sein de certains projets coopératifs. Donc ces tours de France, à ce compagnonnage, il a lieu une fois par an, en général de février à juin. Et puis les temps de travail alternent, immersion individuelle, groupe d'action, regroupement. Voilà, c'est ni plus ni moins une façon d'appréhender pour un groupe de jeunes, d'appréhender ce que pourrait être concrètement un projet dans lequel ces jeunes pourraient s'investir. Donc on aura l'occasion justement de reparler de ce compagnonnage lors de l'interview qui va suivre. Donc le réseau repas, c'est donc des organisations qui se retrouvent, un réseau d'organisations. C'est le compagnonnage. Et enfin, le réseau repas, c'est également des éditions, autrement dit les éditions repas. Donc ce sont des éditions qui publient des livres, hein, des témoignages d'expériences alternatives, qui s'efforcent de montrer qu'il y a d'autres possibilités de mettre en œuvre d'une manière concrète, d'une manière pratique, une certaine forme d'économie. Hein, puis ces éditions, donc finalement, souhaitent, hein, comme le réseau, encourager celles et ceux qui sont insatisfaits du monde dans lequel ils vivent à faire un pas vers d'autres possibles. Voilà, place maintenant à notre interview. Nous allons interviewer Alain, hein, on va vous le présenter dans le cadre de l'interview. Hein, c'est quelqu'un qui est investi dans le réseau repas et puis dans une de ses organisations, une coopérative. Alors peut-être une petite précision, cette interview a été faite durant le week-end. Elle a été faite dans la salle à manger dans laquelle tout le monde se retrouvait. Donc il est possible, hein, ça pourrait expliquer certains petits bruits de fond hein, très, très légers que vous pourriez entendre. A tout à l'heure. Bien, donc je suis aux rencontres du réseau repas, hein, à petits pas à Ruisseauville, dans le territoire des Sept Vallées. Et je suis avec Alain. Hein, à ces rencontres du réseau repas, il y a différentes organisations qui sont présentes, différentes coopératives, associations, enfin différentes. Et donc Alain, lui, fait partie d'une organisation qui s'appelle La Navette. Alors Alain, je vais commencer par te laisser te présenter et puis, d'une manière générale, présenter La Navette.
Bonjour, donc je m'appelle Alain Détol, je suis membre d'une coopérative qui s'appelle Scope La Navette, qui est installée sur le plateau de Millevaches à Faux-la-Montagne. Nous y sommes installés depuis 2007. C'est une activité qui avant se déroulait à Paris et à Montreuil et qui consiste en une activité de rédacteur de textes pour des revues, des magazines, des sites internet. Rédaction de textes plutôt techniques, rédaction de textes qui ont à voir avec la législation, la réglementation, avec comme optique de pouvoir expliquer à des gens qui ne sont pas des spécialistes les évolutions en matière législative réglementaire et donc les aider en fait dans les projets qu'ils peuvent porter aussi bien en matière associative que coopérative ou mutualiste, ce qu'on appelle traditionnellement l'économie sociale. Nous sommes donc des rédacteurs, nous sommes une équipe, enfin nous étions, j'expliquerai pourquoi je dis nous étions, une équipe de 7 personnes sur Faux-la-Montagne. Et nous avons différents supports, une revue qui s'appelle Association Mode d'Emploi qui est une revue nationale. Nous intervenons sur différents sites, le site de la MAIF, le site de la Caisse d'Épargne, le site de la Banque Postale et après sur différents partenaires sur des interventions qui sont plus ponctuelles en fait en fonction des demandes qu'on peut avoir sur des sujets particuliers.
Merci Alain. Donc, tu as évoqué des grands noms. Hein. Tu as parlé de la MAIF, par exemple. Je voudrais t'interroger sur des plus petits noms maintenant. Hein. Donc, notre radio, elle est écoutée par des organisations hein, diverses et variées, de l'ESS notamment. Alors, des ressourceries, des magasins équitables. Typiquement, est-ce que tu as des exemples de coopération avec de telles organisations et la navette ? Autrement dit, bon, je tiens un magasin équitable ou alors j'ai un atelier de réparation de vélo ou un garage associatif. Est-ce que la navette travaille avec des organisations comme celle-là ? Enfin, qu'est-ce que fait la navette exactement avec ce type d'organisation ?
Non, alors là, on est dans un autre mode de coopération. La navette, quand elle travaille avec la MAIF, c'est pour une prestation de service qui est servie à la MAIF, une prestation de rédaction par rapport à ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire amener une vulgarisation d'un certain nombre de données au public le plus large. Après, on est installé sur un territoire, celui de Faux-la-Montagne. Il se trouve qu'en plus, c'est un territoire qui est très dynamique, mais quand on regarde d'un peu près, la plupart des territoires sont très dynamiques en fait. Bref, pour ce qui concerne Faux-la-Montagne, on est donc sur ce qu'on appelle le plateau de Mille Vaches et autour de nous et à côté dans d'autres villages ou dans d'autres villes, on a un certain nombre d'initiatives citoyennes qui sont prises, donc qui peuvent être aussi bien des recycleries, des AMAP et différents. Il y a une télé, hein, il y a une télé Télé Mille Vaches qui est la plus vieille télé associative de France. On a une radio, Radio Vassivière, qui est une radio associative. Et tout ce petit monde-là ben, coopère, collabore, travaille ensemble, mène ensemble un certain nombre de projets, mutualise des moyens, tout ça. Et alors donc explicitement et directement, la navette participe à cette dynamique, collabore, coopère, éventuellement va financer un certain nombre de choses. Pour autant, on n'a jamais de prestations directes. De rédactionnel direct qui est fait par la navette pour ces différents organismes, ces différentes structures. Ne serait-ce que parce qu'à ce moment-là, on serait dans des rapports marchands qui seraient de toute façon pas au niveau et pas dans les moyens des structures concernées.
Donc on peut dire que les clients ou les usagers, je ne sais pas comment vous vous exprimez au sein de la navette, vos clients, vos usagers, sont quand même des grosses organisations de l'économie sociale, de manière générale. C'est plutôt le profil.
C'est plutôt, en effet, des grosses organisations qui sont nos clients. Quand je regarde la revue Association Mode d'Emploi, néanmoins, elle s'adresse à des responsables associatifs et elle est achetée par des responsables de petites associations et de petites structures. Donc on a bien les deux plans. Et puis quand on met en place ou on participe à des ou on anime des formations ou des colloques ou des choses comme ça, puisque c'est aussi une partie de notre activité, on va se retrouver avec en face de nous ou à côté de nous dans les salles des gens qui viennent de tous horizons. Donc c'est vrai que la majeure partie de notre subsistance, on la tire de nos rapports avec des grosses organisations de l'économie sociale. Pour autant, notre activité peut largement être en contact avec l'ensemble de l'économie sociale et au-delà, qu'elle soit grosse ou petite.
Lors de ces rencontres du réseau Repas, on parle beaucoup de la vie interne, on parle beaucoup d'autogestion. Est-ce que tu peux nous donner quelques indications sur comment tout ça s'est vécu, la vie coopérative, hein? Tu as évoqué la SCOP, la navette, la vie coopérative, comment elle se passe, quelles sont les réussites, les difficultés aussi?
Oui, alors on est dans les rencontres du réseau Repas, réseau d'échange de pratiques alternatives et solidaires. C'est un réseau qui s'est formé il y a 20 ans, un petit peu en réaction de ce qui existait à l'époque de théorisation de l'autogestion, en disant mais nous on veut parler de la manière dont on vit concrètement les choses au sein de structures qui sont en prise avec une réalité, en général une réalité économique. Et c'est vrai que ce qui nous rassemble ou ce qui nous rapproche, c'est ce que nous on mène au sein de la navette, c'est une manière particulière d'envisager les rapports de production au sein d'une unité comme quelle qu'elle soit. Alors notamment en s'appuyant sur le fait qu'on croit beaucoup que chaque personne dans une entreprise a quelque chose à y apporter à égalité avec les autres et qu'il n'y a pas de valorisation particulière à faire de l'un par rapport à l'autre, que tout le monde a sa place et a la même importance. Donc ça veut dire derrière que tout le monde touche le même salaire, qu'il est très important d'échanger et de prendre en compte tout ce que peut amener chaque individu, qu'il soit jeune, vieux, femme, homme, et qu'il est très important de mixer toutes ces expériences. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'hiérarchie, que tout est bon à prendre et qu'on essaye de réfléchir ensemble à tous les aspects d'une activité pour résoudre tous les problèmes auxquels on peut être confronté, même si après dans le quotidien, il peut y avoir des gens qui sont plus ou moins spécialisés sur une tâche au sein de la structure. L'important est de pouvoir avoir ce mouvement d'échange, de communication et de réflexion commune pour arriver à gérer l'ensemble de l'activité.
Peut-être pour qu'on ait une vision un peu plus concrète de ce que tu viens d'évoquer, est-ce que tu peux nous situer la navette, hein? Vous êtes combien de salariés, combien de bénévoles, ou même sans les distinguer, c'est l'équipe, c'est combien de personnes? Comment ça se passe? Il y a des réunions d'équipe tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Enfin, comment ça se présente dans le concret? C'est prise de décision, c'est la mise en commun de projets, d'envie de faire.
Alors, donc sur les aspects concrets, la navette actuellement, c'est 7 personnes qui sont salariées sur des temps partiels choisis et pas des temps partiels contraints, avec une base de 2000 euros net pour un plein temps, un plein temps étant à 35 heures. Donc les gens qui travaillent 20 heures sont au prorata de ce point de vue-là. Il y a actuellement dans l'équipe salariée 2 garçons et 5 filles. La plupart sont sur des postes donc de 20 heures, 25 heures. Et une des filles, c'est une correctrice qui est là depuis l'origine du projet, et elle est sur 3-4 heures par mois. Là aussi, c'est parce que c'est une personne retraitée qui fait ça en plus, mais qui est dans le projet depuis l'origine. Il y a donc 2 personnes, Christian et moi, qui sommes des retraités de garçons, et un 3e garçon qui était aussi dans l'équipe. D'ailleurs, nous sommes les 3 qui avons amené la navette à Faux-la-Montagne. Le 3e, lui, est sorti de la navette pour aller consolider un projet qu'il avait à cœur depuis longtemps, qui est une biscuiterie sur laquelle collaborent d'autres personnes et qui a une forme associative et aussi qui relève un petit peu de l'autogestion. Alors, comment après on fonctionne au quotidien ? Au quotidien, je décrirai pas, mais globalement, toutes les réunions et tout, il y a un moment fort en fait dans la semaine qui est soit le lundi, soit le mardi, suivant les choses, où il y a une réunion d'équipe où l'ensemble des personnes qui sont concernées salarié, là, je parle, hein, va pendant 2 ou 3 heures passer en revue l'ensemble des activités qui sont en cours, les questions qui se posent, la répartition du travail qu'il va y avoir à faire et poser un certain nombre d'autres problèmes qui se posent dans la gestion courante de la structure, de manière à pouvoir ensemble les résoudre ou les examiner. Il y a un compte-rendu qui est fait, qui donc en plus est diffusé à l'ensemble des membres, d'ailleurs salariés ou pas salariés, toutes les personnes étant sociétaires, on est dans une SCOP, ce qui est une forme particulière d'économie sociale, où en fait on ne peut avoir que des personnes sociétaires au sein de la... Bon, et il se trouve que dans ce système, les retraités peuvent continuer à être sociétaires. C'est pour ça qu'il y a des retraités bénévoles. Sinon, on ne peut pas y avoir de bénévoles au sein d'une SCOP. Là, il faudrait être dans une SIC ou dans une association. Donc, l'intérêt de notre système de compte-rendu, c'est que c'est un compte-rendu glissant, c'est-à-dire qu'on reprend d'une semaine à l'autre le même document qui a été diffusé et qu'on modifie ce document en fonction des nouveautés qu'il y a à mettre en œuvre. On a à la fois un document de travail, mais un document de mémoire sur ce qui a été fait précédemment. Donc on peut, d'une réunion à l'autre ou même 10 réunions après, se référer au document antérieur de manière à avoir toujours des éléments de... Un autre aspect qui caractérise notre activité, c'est que chacun note pour chaque travail qu'il mène le nombre d'heures qu'il y passe. C'est un travail volontaire, chacun, bon, un peu d'ailleurs comme ça se fait dans un cabinet d'avocats par exemple, où chaque avocat va noter le nombre d'heures qu'il passe. Hein, ce n'est pas quelque chose de très révolutionnaire entre guillemets. Néanmoins, ça permet d'avoir aussi comme ça un état chantier par chantier du nombre d'heures qu'on a passées, de pouvoir apprécier si on a été rentable ou pas sur tel ou tel chantier, ce qui ne veut pas dire qu'on va forcément abandonner le chantier s'il n'est pas rentable, mais on saura où on en est et on saura si ça vaut la peine ou pas de continuer. Des fois, on fait des chantiers qui ne sont pas rentables parce que c'est par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure. Ce sont des chantiers locaux qui sont peut-être moins bien payés, mais sur lesquels on a envie d'investir un peu d'énergie au sein de la navette.
J'ai envie de revenir sur la vie coopérative. Donc, tu dirais que c'est des questions qui se posent d'une manière récurrente, hein, au sein du mouvement coopératif et de ses organisations. C'est l'implication des gens. On sait qu'il y a des coopératives où il y a y compris très peu de salariés qui sont coopérateurs. Bon, je pense que la navette, on n'est pas dans ce cas de figure. Mais bon, comment tu décrirais un petit peu ces questions d'engagement, ces questions de... Hein, tu parlais de travailler autrement. Enfin, comment tu vois ça dans le concret au sein de la navette?
Il y a un panel, il y a un éventail en fait de motivation de la part des gens qui participent et qui travaillent. Il y a des gens qui vont avoir une approche plus politique et qui sont venus là parce que ça leur tenait à cœur de mettre en place un projet qui relève d'une réflexion globale sur les process de production au sein d'une société. Il y en a d'autres, c'est tout simplement parce qu'ils avaient envie de travailler, comme on dit, travailler autrement. Il y a quand même beaucoup une notion de plaisir, c'est-à-dire de travailler sous des contraintes. Il y en a toujours dans un boulot parce que pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on peut revenir, mais on peut y travailler avec plus ou moins de plaisir et plus ou moins de stress. Et donc, c'est vrai que ce qui motive aussi assez largement les gens qui viennent travailler dans ce genre de structure, c'est de travailler avec moins de stress, ou du moins un stress qui va être collectivement partagé, ce qui fait qu'il est moins difficile à assumer et à affronter. Je dis qu'il y a du stress parce que à partir du moment où on rentre dans une activité économique dans laquelle on va tirer sa subsistance, ben, on se retrouve confronté en effet à un certain nombre de contraintes avec lesquelles il faut jongler. Et c'est vrai que ça génère du stress et ça génère aussi des tensions. Les gérer collectivement, ce qui est le cas dans un projet comme le nôtre, a l'avantage de pouvoir se reposer sur les autres en même temps que les autres se reposent sur soi, c'est-à-dire qu'on est en responsabilité collective, il ne s'agit pas d'une irresponsabilité des uns par rapport aux autres. Et pour en revenir aux motivations, c'est vrai qu'il va y avoir des gens qui vont être plus ou moins motivés et plus ou moins actifs, mais la diversité, c'est aussi sur laquelle on s'appuie et qui, pour nous, est une richesse. C'est aussi savoir accepter qu'il va y avoir des différences de niveau de motivation et d'engagement et d'implication dans un projet. Et que si on veut que le projet fonctionne bien, il faut aussi savoir accepter ces différences de motivation.
Très bien, je te remercie. Alors, écoute, si tu es d'accord, je voudrais profiter de ta présence au micro pour parler du réseau Repas. Tu évoquais une histoire ancienne, tu évoquais 20 ans. Alors, comment ça s'est passé cette création? Qu'est-ce qui a motivé? Qui étaient les protagonistes? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Et puis peut-être un petit peu de... deuil rétrospectif, autrement dit, aujourd'hui le réseau, où il en est, enfin, quelle est ta vision un petit peu de tout ça?
Pour autant que je puisse le faire, je suis un des vieux, mais pas forcément un des fondateurs dans ce réseau. C'est un réseau donc qui a plus de 20 ans, qui a été monté au départ par des personnes qui participaient, enfin, Les piliers fondateurs sont des gens comme Ambiance Bois, comme Art de Laine, des structures qui, en fait, justement, réagissaient à ce qui existait à l'époque, notamment une structure qui s'appelait le REAS, qui était de la réflexion très théorique autour de ces questions d'autogestion. Et ils ont réagi, comme je l'ai expliqué un peu plus haut, en disant, nous, on veut parler de ce qu'on vit au quotidien dans nos structures et des problèmes qu'on y rencontre. Et donc, c'est là-dessus qu'on va se rencontrer. C'est par rapport à ça qu'on va essayer de réfléchir. Alors, ce réseau, il s'est construit de manière assez informelle, virale, on dirait maintenant, ou... vernaculaire, enfin bref, c'est du bouche à oreille, c'est des rencontres entre structures qu'on repère et auxquelles on propose de venir partager leur expérience avec les autres et en retirer aussi des éléments de réflexion par rapport à ce que vivent d'autres structures. C'est un réseau qui se réunit régulièrement deux fois par an, qui est ouvert, qui est informel, le réseau lui-même. Hein. Après, on pourra évoquer deux aspects qui sont plus formalisés. Et ces rencontres sont des rencontres qui sont définies à chaque réunion. On définit la structure suivante qui va accueillir la réunion suivante. À elle de fixer un thème de cette réunion, les thèmes pouvant aller de questions très concrètes sur la transmission au sein de structures, ça peut être aussi les salaires, ça peut être aussi l'environnement, ça peut être aussi ici une réflexion sur le projet politique à mener par rapport à l'activité dans laquelle on fonctionne. Tous les sujets peuvent être abordés. Évidemment, depuis 20 ans, on a vu beaucoup de choses et on les a vues même plusieurs fois. Mais l'important aussi de ce genre de rencontre, c'est bien entendu les échanges qu'il y a sur le moment, qui font aussi du bien dans la mesure où elles permettent de conforter un peu nos propres pratiques et de pouvoir... déjà sentir que d'autres font des choses un peu équivalentes un peu partout sur le territoire et qu'on n'est pas si isolé que ça dans nos manières de faire. Alors, je veux juste revenir sur deux aspects qui sont plus formalisés au sein de ce réseau. Il y a d'une part une maison d'édition qui s'est montée, qui est donc sous forme associative et qui regroupe un certain nombre de personnes qui sont motivées autour de l'édition de bouquins reprenant un certain nombre d'expériences et d'historiques, de présentations historiques.
Les éditions Repas.
Les éditions Repas, oui. Qui donc reprend des histoires de vie, entre guillemets, de différentes structures qui participent à ce groupement. Et d'autre part, il y a le compagnonnage, qui est une expérience qui a maintenant plus d'une quinzaine d'années aussi, et qui est une manière de proposer à des personnes plutôt jeunes en général, de toute façon, de venir se confronter à ce que c'est que des pratiques d'action collective en faisant un tour de piste au sein des structures du réseau Repas et en menant parallèlement à ça des projets collectifs, un projet collectif. Donc c'est un groupe d'une vingtaine ou d'une trentaine, ça varie entre 15 et 30 suivant les années, de personnes plutôt jeunes qui viennent là sous forme d'un espèce de stage pendant 6 mois et vont visiter des structures et mener eux-mêmes des projets collectifs et en apprenant à travailler ensemble sur des projets collectifs, donc à fonctionner collectivement. Ce qui est intéressant dans cette approche aussi, c'est que chaque membre du réseau Repas, enfin chaque structure membre de cette expérience de compagnonnage, délègue un ou une de ses salariés pour participer au groupe de pilotage. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est mené par l'ensemble des structures qui vont accueillir après les jeunes. Ça crée une dynamique intéressante pour la suite, et il y a pas mal de personnes qui sont passées par ce compagnonnage, qui ont soit intégré des structures qui sont maintenant dans ce réseau plus ou moins formel, soit créé de nouvelles structures qui sont venues dans ce réseau. C'est pas tous les stagiaires, hein, mais un certain nombre d'entre eux.
Pour bien comprendre hein, cette question du compagnonnage qui me semble effectivement à la fois très riche et très, très prometteuse hein, finalement hein, par rapport à ce que tu évoquais. Donc il y a une quinzaine de jeunes, on va partir de cette... il y a une quinzaine de jeunes donc qui sont entre guillemets encadrés, avec des guillemets, hein, sur, par différents salariés des différentes organisations du réseau. Alors ces 15 jeunes, comment ça se passe? Ils vont pas tous en même temps dans... Autrement dit, il y en a un à un moment donné qui va être chez Ambiance Bois, un autre qui va être à la navette, un autre qui va être... Comment ça se passe concrètement?
C'est jamais des personnes isolées, c'est en général un groupe de personnes qui vont... alors de toute façon, il y a des regroupements avec l'ensemble des 15 ou des 20. Donc un regroupement à l'accueil et à des moments intermédiaires. Et sinon, il va y avoir par petits groupes de 5, 6 ou plus des gens qui vont aller dans les différentes entreprises pour participer à la vie de cette entreprise en menant un projet spécifique au sein de chacune des entreprises qu'ils vont visiter.
Écoute Alain, peut-être pour conclure, une dernière question. Tu évoquais les rencontres du réseau Repas. Donc là, aujourd'hui, nous sommes... au sein de À Petits Pas, hein, dans les Sept Vallées. Et À Petits Pas a choisi comme thématique, hein, tu l'évoquais, le lien entre le projet politique et puis les contraintes financières, hein, d'une manière générale. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment est-ce que tu positionnerais ce débat? Qu'est-ce que ça t'amène, toi, personnellement, sans engager qui que ce soit, évidemment?
Alors, c'est vrai que je n'ai participé qu'aux réflexions d'hier, puisque ce matin, j'étais en cuisine. Pour autant, j'ai un certain nombre de choses par rapport à ça auxquelles j'ai réfléchi. C'est vrai que ce qui me semble important, en fait, de pouvoir essayer de réfléchir, c'est à la manière dont notre expérience et la façon dont nous travaillons à l'interne entre nous, puisqu'on a choisi donc cette manière d'égalité et d'appel à l'intelligence de chacun, et donc pour en faire une intelligence collective, de réfléchir à la manière dont on peut l'exporter dans nos relations avec l'extérieur et de voir, de tester de quelle manière ces comportements ou ces habitudes ou ces manières d'être peuvent aussi fonder une action plus politique. Mais ça m'est personnel, hein. C'est pas une réflexion du réseau Repas. Avec à la fois des éléments qui peuvent venir d'une approche peut-être non violente, on peut dire d'un certain point de vue, mais aussi d'une approche qui peut être plus militante de une réflexion sur ce qu'on appelle la démocratie participative face à la démocratie représentative, et en disant qu'un réseau comme le réseau Repas a peut-être pas mal de choses à apporter sur une forme de démocratie participative assez élaborée et assez sophistiquée, c'est vrai, qui prend du temps, c'est vrai, mais qui est aussi une manière peut-être plus efficace pour résoudre un certain nombre de problèmes sociaux qui se posent et intervenir sur les problèmes de la cité, parce que nous avons des savoir-faire, des pratiques, un respect de l'autre, une manière d'aborder les questions qui peuvent être aussi efficaces dans la résolution d'un ensemble de problèmes sociaux qui se posent.
Je te remercie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à tes yeux, encore une fois, les pratiques que le réseau Repas a engrangées depuis 20 ans, qui ne font que se confirmer et s'affirmer, est-ce que ces pratiques, selon toi, elles peuvent davantage essaimer? Et donc, est-ce que ça signifie que le réseau pourrait peut-être avoir une ambition peut-être plus de se tourner vers les autres pour convaincre par la pratique? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire à tes yeux?
Je ne poserai pas comme ça, parce que le réseau, son ambition, c'est de continuer à être ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose d'informel dans lequel les gens viennent confronter leurs pratiques et réfléchir à ce qu'ils peuvent en faire. Mais il ne me semble pas que ça soit dans la vocation du réseau de devenir d'une manière ou d'une autre un mouvement politique. Ça, c'est à chacun, après, en s'appuyant sur ce qu'il en retire, de pouvoir aller plus loin ailleurs dans d'autres structures pour justement intervenir. Mais j'ai l'impression que c'est simplement un lieu de ressourcement, d'enrichissement, mais que ça ne peut pas être, parce que de toute façon, il y a une trop grande diversité sur les approches. Et c'est vrai que c'est cette diversité aussi qui fait l'intérêt et l'enrichissement qu'on peut en avoir, mais que ça ne peut pas être en soi un mouvement politique. Et donc, il ne peut pas se présenter à l'extérieur autrement que comme un lieu où viennent se confronter un certain nombre d'expériences de tous ordres qui fonctionnent sur les valeurs qu'on a évoquées précédemment.
Cette interview est maintenant terminée. Donc j'aimerais vous rappeler quand même les différentes façons de contacter le réseau Repas. Le plus simple, c'est de se rendre sur deux sites internet. Donc le premier site qui concerne le réseau en lui-même et le compagnonnage, c'est réseaurepas.free.fr. Et enfin le site des éditions Repas qui présente l'ensemble du catalogue, des livres publiés par ces éditions, c'est editionrepas.free.fr.
Bien, cette diffusion de Micro-Rebelle Hebdo se termine. Merci de nous avoir écoutés. Rappelons que vous pouvez écouter et réécouter Micro-Rebelle Hebdo sur notre site microrebelle.fr et également sur Radio PFM 99.9 les mercredis à 22h, les jeudis à 17h et les dimanches à 9h. Précisons enfin qu'il vous est tout à fait possible de participer à l'aventure Micro-Rebelle et de rejoindre notre équipe composée uniquement de bénévoles. Vous pourrez notamment intervenir au sein de nos émissions, par exemple pour traiter d'un événement ou encore pour présenter votre association, votre collectif militant. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre en charge un créneau régulier sur une thématique qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, vous disposerez du matériel nécessaire et nous vous formerons à son utilisation. Le plus simple pour nous contacter est de nous envoyer un courrier électronique à l'adresse contact@microrebelle.fr. contact@micro-rebelle.fr. Et enfin, avant de rendre l'antenne, Micro Rebelle souhaite vous solliciter financièrement. Nous sommes une radio indépendante, sans pub, sans subvention. Vos contributions permettront d'améliorer notre équipement matériel et notre présence Internet. Le plus simple est de nous envoyer un chèque à l'ordre de Micro Rebelle à l'adresse suivante. Micro Rebelle, Le Lag, LAG, 23 avenue Jean Jaurès, 62 800 Liévin. Merci d'avance à toutes et à tous. Et maintenant, un petit rappel, car on vous en a déjà parlé. Nous vous attendons samedi 2 juillet pour le barbecue de Micro Rebelle. Venez rencontrer notre équipe, échanger sur ses projets et surtout passer un bon moment ensemble. C'est à 13h dans nos locaux 199 rue Émile Zola à Liévin. Le plan et les moyens d'accès sont sur notre site microrebelle.fr. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez venir avec un plat à partager ou des choses à mettre sur le barbecue ou bien encore des boissons. Ceci dit, vous pouvez aussi arriver les mains vides, vous n'en serez pas moins le ou la bienvenue. À très bientôt donc.